Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, je reçois aujourd'hui Catherine Tricot, architecte, urbaniste. Nous allons parler de la ville, de l'architecture, et puis des projets développés aujourd'hui en Île-de-France. Bonjour Catherine.
Bonjour Myriam.
Alors, vous êtes dans le paysage de l'architecture et de l'urbanisme depuis un certain nombre d'années, avec des convictions fortes. Racontez-moi un petit peu les domaines dans lesquels vous travaillez, vous excellez, et puis aussi un petit peu cette histoire, grande histoire quand même de l'ANRU, sur lequel vous travaillez depuis un certain nombre d'années, et donc du coup avec peut-être ce recul essentiel.
Alors, je vais avoir 60 ans, donc ça va faire, 35 ans maintenant que j'exerce le métier d'architecte. Mais je l'exerce sur mon propre nom, disons avec mon agence, depuis 15 ans. Auparavant, j'ai longtemps collaboré avec Paul Chemetov au sein de son agence, comme salarié puis associé, mais enfin, peu importe. En tout cas, maintenant...
Mais pas peu importe, parce que c'est une grande signature et donc
oui,
quelque part, ça marque aussi...
Tout à fait, ça marque mon parcours. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu importe, c'était le statut.
Oui,
voilà,
ouais.
depuis maintenant 15 ans... Et en fait, depuis 15 ans, je travaille sur des projets ANRU. Donc, quand j'ai quitté l'agence Paul Chemetov, j'ai d'entrée eu un projet ANRU. Et depuis, je n'ai cessé de travailler sur l'ANRU. Quand j'étais chez Paul Chemetov, j'étais, responsable du pôle urbain et logement. Et quand j'en suis partie, j'ai conservé...
Naturel.
Voilà. Et dans le logement, je fais à la fois du logement neuf et de la réhabilitation. C'est-à-dire que... Par rapport à votre question, je suis au cœur du projet de l'ANRU, c'est-à-dire à la fois de l'urbanisme, de la reconfiguration urbaine, et puis un travail de remodelage qui suppose de la transformation et de la création.
Alors justement, est-ce que, à travers toutes ces années, vous avez pu voir une évolution importante des projets ANRU, avec peut-être, en gros, si on définit les choses d'une manière un petit peu binaire, dans les premières années de l'ANRU, c'était plutôt beaucoup de démolitions et de reconstruction, mais on n'hésitait pas avec la démolition. Est-ce que maintenant on est un petit peu plus respectueux? Est-ce qu'on écoute un petit peu plus le maillage? Est-ce qu'on écoute un petit peu plus tout ce qui nous préoccupe évidemment avec le développement durable et le fait de peut-être moins démolir? Qu'est-ce qui se passe, hein?
Alors moi j'ai l'impression que les premiers projets ANRU ont été les projets qui se sont portés sur les quartiers, les territoires les plus durs. Donc, de ce fait, les questions qui étaient traitées lors de ces premiers projets sont un peu différentes de ceux que l'on traite aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de quartiers ANRU beaucoup plus insérés.
Insérés, c'est ça. On n'est pas au milieu de la pampa.
On n'est pas forcément dans la grande banlieue, je dirais. Voilà. Même si le premier projet ANRU n'était pas que dans la grande banlieue. En fait, il y avait vraiment, c'était ceux qui étaient dans l'extrême urgence qui étaient traités. Et donc, il y avait, je pense, d'abord une préoccupation du raccordement de ces quartiers à la ville. Donc, il y avait véritablement l'identification qu'une des questions de ces quartiers, c'était qu'ils étaient coupés, isolés par les transports en commun, d'une part, par le système viaire, d'autre part. Donc, les premiers projets ont vraiment insisté sur ces dimensions du raccordement à la ville. La deuxième chose, c'est que, en effet, je pense que ces premiers quartiers, il faut se souvenir que l'ANRU, ça naît en 2003, conduit par Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre de Jacques Chirac, et je crois, moi, que ce n'est pas sans rapport, ça émerge après 2002, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2002, qui voit l'émergence de Jean-Marie Le Pen. Et je pense que dans l'esprit de Jacques...
Donc ça fait 20 ans, donc c'est quand même...
Oui, ça fait 20 ans, mais disons le contexte politique de l'émergence de l'ANRU et le fait que Jean-Louis Borloo le conduise... Et lié à cette identification.
Donc c'est de toute façon déjà à la base un acte politique fort.
Hein. Oui, et qui est lié à l'identification qu'il y a un problème spécifique de la banlieue qui est urbain, social et politique. Jean-Louis Borloo est un ministre très politique, c'est-à-dire que c'est pas un technicien de la ville, c'est quelqu'un qui va d'entrée de jeu vouloir
Mais il avait donné un petit peu les exemples à Valenciennes, et donc effectivement, il avait quand même cette espèce d'image de celui qui écoutait la ville, peut-être.
Tout à fait. Mais la réponse qu'il va apporter, donc, c'est vraiment de se dire, il y a un problème dans les quartiers qui a conduit au mal-être qui a conduit Jean-Marie Le Pen au second tour. Et donc, on va apporter une réponse qui va vraiment transformer profondément ces quartiers. Et dans le profondément, il y avait l'idée qu'il fallait démolir les bars et les tours. Mmh. Ça, c'était vraiment une sorte de présupposé.
Parce que la stigmatisation du chemin de grue des années 60, et puis quand même, quelque part, de la forme urbaine qui n'était pas nécessairement, je dirais, aujourd'hui, apprécié ou bien vécu ou intégré en tout cas à la ville.
Oui, mais c'était lié, si vous voulez, c'est pas un regard esthétique.
Mmh.
Voilà.
Oui,
ce que je veux dire par là, c'est que Jean-Louis Borloo l'associait à un problème de mal-être qui allait avoir des conséquences sociales et politiques que l'on venait de vivre en 2002. Donc, on va avoir cette insistance sur la démolition, mais il n'est pas le premier. Quand Michel Rocard était Premier ministre, il avait parlé, donc là, on est vraiment sous le quinquennat précédent, celui de François Mitterrand, il avait parlé du béton criminogène. Donc, cette idée que une forme urbaine produit du mal-être, une sorte de destruction du lien social,
ghettoisation, de mise à...
etc. Voilà. Bon. Ça, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement dans le paysage, et Jean-Louis Borloo va l'acter en disant, bon, on va faire une agence nationale qui va rassembler tous les moyens pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans la transformation de ces quartiers.
Alors, donc, aujourd'hui, en tant qu'architecte urbaniste, je voudrais voir un peu cette évolution, parce que on a énormément, on va travailler, il y a beaucoup d'émissions sur justement les 20 ans de l'ANRU. Moi, je voudrais vraiment votre regard justement, ce travail avec les politiques, avec les territoires, aujourd'hui, est-ce qu'il est différent? Comment s'inscrit-il dans la ville? Quel est l'impact aujourd'hui aussi sur les populations?
Je vous disais, moi j'ai créé mon agence en 2007 et le premier projet que j'ai eu à faire, c'était à Bobigny. Et à l'époque, Bernard Biersinger, avant qu'il ne décède de manière totalement inopinée, inattendue, était le maire de Bobigny et il avait négocié un ANRU dans lequel, en fait, il y avait quasiment pas de démolition. Pourtant, on était dans le modèle ANRU 1, c'est-à-dire un modèle avec des démolitions. Et j'en ai fait un deuxième dans le Nord, dans lequel on a fait la démolition de 20 logements. C'est-à-dire que, en fait, à la fois, c'était la doctrine générale qui était le béton criminogène, il faut démolir les barres et les tours, etc. Mais, en fait, le poids des politiques a toujours été extrêmement présent. C'est-à-dire que l'ANRU, ça a toujours été... C'est un projet qui est
un acte politique.
Et qui a toujours été porté par la collectivité locale. C'est-à-dire que celui qui dépose le projet à l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est le maire, ou le président de territoire désormais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement des techniciens à l'Agence nationale de rénovation urbaine qui définissent le...
Alors aujourd'hui, le dialogue est un peu différent, puisque les populations sont amenées à travailler un peu plus, non?
Non, ça c'est une...
La concertation, c'est du blabla.
Ah oui.
Bon.
Je pense que... Non, mais...
C'est très fort de dire ça.
Je pensais que dans l'ANRU,
parce que, bon, je dirais que le discours politique et nous amène à effectivement écouter un petit peu ce qui se passe, que ce soit les promoteurs qui travaillent sur ces quartiers en rue, que ce soit les bailleurs qui sont effectivement au cœur de ces projets, nous donne le sentiment que aujourd'hui il y a du dialogue avec la population, qu'il y a de la concertation et que les projets sont vraiment différents parce que évoqués avec les uns et les autres et surtout avec les habitants.
Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de dialogue du tout, mais je pense qu'il y en a toujours plus ou moins eu. Je veux dire, on ne fait pas une ville complètement contre les habitants, sauf quand on les faisait dans la pampa. C'est-à-dire, à partir du moment où on refait une ville sur elle-même, quand on était dans la période des Trente Glorieuses, qu'on prenait les champs et allez hop, on construisait, il n'y avait personne avec qui dialoguer.
Bien sûr, on faisait
ce qu'on voulait. Mais à partir du moment où vous transformez la ville, ce qui est le cas de l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc il y a des habitants, je crois qu'on a toujours parlé avec les habitants. Moi, je pense qu'on a beaucoup raconté qu'on allait co-construire la ville. En vérité...
Dans les faits, c'est pas...
Non, mais j'allais dire, dans les faits, d'abord, je constate que ce n'est pas... Je ne dis pas qu'on ne parle pas avec les habitants, mais on ne co-construit pas avec eux. D'abord, parce que c'est extrêmement complexe. Et les projets manipulent des enjeux sur le plan technique très complexe, sur le plan financier colossaux, sur le plan des équilibres politiques qui sont difficiles à mettre au point. Donc...
C'est-à-dire que l'habitant qui habite dans ces quartiers n'est pas à même de comprendre qu'on se jette à la figure des millions d'euros qu'on a l'impression quelque part de donner la bonne réponse.
On essaie de lui faire partager les orientations, essaie de lui faire partager les diagnostics, mais en vérité, on va concentrer la concertation sur des enjeux qui sont vraiment des enjeux de second rang, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on va faire, la résidence
en pied d'immeuble, etc., la réhabilitation de son immeuble, mais ce qui est
le projet. Est-ce que vous avez un exemple un peu plus frappant à nous donner là aujourd'hui ce que vous faites, derniers exemples sur lesquels vous travaillez?
Actuellement, je travaille depuis de longues années. Maintenant, ça va faire 6 ans que j'ai commencé à travailler sur le projet de rénovation urbaine de la cité Framoisin à Saint-Denis.
Ah, oui.
C'est la cité emblématique.
Emblématique.
Au pied du Stade de France. C'est une cité qui, depuis qu'elle a été construite, a toujours été dans les projets de rénovation. Elle a été livrée en 78 et ça n'a jamais arrêté. Donc j'espère que cette fois-ci, on va réellement apporter une transformation. Mais la révolution, c'est de créer des rues. La création de rues dans une cité qui était sur un modèle du mouvement moderne, c'est-à-dire la cité jardin sans rue, et qu'aujourd'hui, on a compris que c'était un enfermement. Ça a été vraiment... On va dire, c'était une négociation avec les habitants.
Mais c'est une rue apaisée. C'est une rue cyclable.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la décision politique de créer des rues, elle a été prise par les élus. Et le travail avec les habitants a été un travail de pédagogie. C'est-à-dire pour leur dire qu'en fait, la rue apaisée va, au fond, calmer la cité. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de rue, il y a des voitures partout. Donc, ce rapport avec les habitants est un rapport beaucoup plus pédagogique, en vérité, que de co-construction avec les habitants.
Alors, vous évoquez ce quartier qui est quand même extrêmement important. Les politiques ont changé.
Exactement.
Est-ce à dire que le temps va se rallonger un peu plus, ou là, il y a des vraies décisions?
Le temps se rallonge un petit peu plus, mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, la nouvelle municipalité qui a été élue en juin 2020 m'a demandé de reprendre le projet avec de nouvelles orientations, pas radicalement différentes, mais enfin substantiellement différentes. On les a reprises. Ça a été présenté aux habitants une fois dans une réunion publique au cours de laquelle ils avaient plus envie de parler de problèmes de sécurité quotidienne que du projet. Ça a été fait très rapidement, assez peu en concertation avec eux. Mais encore une fois, je crois que c'est un leurre de croire qu'on va co-construire à ces échelles et dans ces délais-là avec les habitants.
Alors, c'est une jolie interview. Catherine, je suis désolée, le temps nous presse. Êtes-vous d'accord pour revenir une deuxième fois au micro? Parce que politique, architecture, urbanisme, il y a de quoi faire, n'est-ce pas?
Ah, c'est un beau sujet. Je m'y reviens quand vous voulez.
Merci Catherine. Et
au revoir.
Bientôt, chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire.